grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa maqaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mawni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 18 août 2014. Bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue du jour. Aujourd'hui, nous parlons de la Haute Autorité de la Communication. Le texte de la création de cette nouvelle structure sera présenté aux députés de l'Assemblée nationale cette semaine et le ministre Mamadou Camara nous fait le plaisir d'être là pour en parler. Bonjour, Monsieur le ministre.
Bonjour.
Également avec nous, Makan Kone, président de la Maison de la Presse de Bamako, Aliou Dim de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis Famoussa Sidibé, Péting Diara et Nouhoum Diré sont à la technique. Studio Tamani. Selon le texte, la Haute Autorité de la Communication est une autorité administrative indépendante créée par voie législative, ordonnance du 21 janvier 2014. Si la HAC a le pouvoir de sanction pour certaines violations de la réglementation, elle n'a pas de pouvoir de censure. Ses contrôles s'exercent a posteriori. Son prestige dépendra d'abord de sa crédibilité. Il faut comprendre là l'objectivité de cette décision et de sa capacité à garantir la liberté d'opinion et d'expression. Alors, Monsieur le ministre, en plus de ce que je viens de dire, quelle autre définition faut-il donner à cette nouvelle autorité de la communication ?
La Haute Autorité de la Communication va venir remplacer un organe de régulation qui existe depuis plusieurs années dans notre pays. Il s'agit du Conseil supérieur de la communication. Ce conseil a montré ses limites puisqu'il n'a qu'un rôle consultatif. Aujourd'hui, devant la floraison de médias, aussi bien de la presse écrite que de la presse privée, le législateur, l'exécutif ont convenu qu'il fallait un organe nouveau qui soit doté de nouvelles fonctions, notamment la fonction de contrôle et la fonction de sanction. Parce que pour réguler, il faut avoir la capacité de contrôler et de sanctionner. Donc c'est ce que fera la HAC à travers les agents qu'elle va nommés, qui vont lire les journaux, qui vont écouter les radios, aller sur Internet, regarder les télévisions et vérifier que ce qui est diffusé sur ces différents supports soit conforme à la réglementation, aux lois en vigueur en République du Mali et également aux mœurs et valeurs communément admises dans notre pays.
Alors, face à M. le ministre, nous avons également deux professionnels, deux dirigeants d'organisations fêtières de la presse. Tout d'abord, Makan Kone, vous êtes président de la Maison de la Presse. Dites-nous, qui et qui sont au sein de cette Maison de la Presse ?
Au sein de la Maison de la Presse, d'abord, c'est la Fédération des associations de presse du Mali. Il y a l'ACEP, l'Association des éditeurs de presse, qui représente la presse écrite. Il y a l'Union des radios et télévisions libres qui représente les radios et les télévisions libres. Il y a l'APAC, les professionnels de la communication. Il y a l'UNAJOM, l'Union nationale des journalistes du Mali, les réseaux des journalistes pour la promotion des droits de l'homme. Il y a bien entendu l'ORTM et l'AMAP. Il y a le réseau malien des journalistes pour la lutte contre la corruption et la pauvreté. Oui. Il y a aussi l'Association des journalistes professionnels du Mali, AJPM. Donc, disons, c'est... En tout cas, l'ensemble des associations représentatives, en tout cas la majorité des associations représentatives de la presse qui siègent à la Maison de la Presse.
Alors, quelle approche est-ce que vous avez aujourd'hui en tant que président de la Maison de la Presse ? Quelle approche est-ce que vous avez de cette nouvelle structure qui va être mise en place ?
Non, moi je crois qu'on a d'ailleurs beaucoup tourné par rapport à cela. Monsieur le ministre a été très gentil en disant que... En disant simplement que le Conseil supérieur avait juste un rôle consultatif et tout. Et puis, moi, je dirais pire. C'est-à-dire que le Conseil supérieur a existé des années durant, mais on n'a vu concrètement aucune disposition. Au contraire, depuis que la presse écrite existe, les journaux, chaque jour que Dieu fait, nous assistons à la création d'un nouveau journal, d'une nouvelle radio. Les fréquences sont distribuées. Il y a aujourd'hui des fréquences. Peut-être qu'on va en parler. Il y a aujourd'hui des fréquences qui sont attribuées, qui ne sont pas utilisées. Il y a des fréquences qui sont louées, il y a des fréquences qui sont vendues. N'importe qui, même un étudiant, c'est je l'ai dit sur un plateau, un étudiant qui n'a pas fini ses études peut aujourd'hui être doté d'un récépissé, créer un journal. C'était le travail du Conseil supérieur de la communication. Il n'est pas dit qu'il faut écrire forcément que le Conseil supérieur, il y a des rôles que le Conseil supérieur pouvait se doter, que le Conseil n'a pas fait. Maintenant, on souhaite que la Haute Autorité fasse ça. C'est de bonne guerre pour nous tous. Et puis, ça va nous faciliter la tâche à nous tous, professionnels de la presse, et même à l'État.
Alors, Aliou Dim, vous provenez d'un organe plus sélectif, l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Quel sera le rôle de cette, ou bien la part de cette organisation dans l'animation de cette nouvelle structure ?
Bon, je vous remercie pour les compliments. Sélectif, hein. Bien, je crois que si la haute autorité de l'audiovisuel, enfin, la communication venait à être créée, c'est ça le plus important. Et là, ce qui va nous plaire d'abord et surtout, c'est l'assainissement de l'environnement. Le ministre a dit qu'on assiste à une prolifération des organes. En fait, l'essentiel des organes qui prolifèrent aujourd'hui, c'est les radios. Et Macan a dit toutes sortes de radios. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à Bamako, il y a plus de 40 radios qui émettent sur le district de Bamako seulement? 40 radios. Des radios non identifiées, tant non reconnues, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Ils émettent des sons, les gens les captent. Et ça, c'est des dangers extraordinaires pour un pays. On ne peut pas, dans un pays, s'asseoir, voir des gens se donner la possibilité justement d'émettre sur des populations des choses qui peuvent les conduire à la mort tout simplement et ne rien faire. Je crois que la chose la plus importante qui puisse être faite aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous soyons... On n'a pas besoin de nombre, on a besoin de qualité. On a besoin de qualité, première chose. Deuxième chose, on a besoin que ces structures-là, ces organes de presse, soient des organes très professionnels. Ça manque. On a tout fait. Aujourd'hui, si vous remarquez, ça fait 20 ans que nous sommes dans ce paysage. Ça fait 20 ans que nous sommes en train de former des gens. Ça fait 20 ans que les gens que nous formons nous quittent. Et ils vont là où on peut les payer. Ça veut dire que l'homme de la radio, par exemple, ou l'homme du journal, tout simplement, ne peut pas vivre de son travail. Alors, est-ce qu'il faudrait que nous continuions à faire en sorte que des gens viennent, ils passent par nous, nous soyons des passoires pour des gens qui vont aller travailler ailleurs, et nous sommes toujours au niveau zéro du développement de nos organes. Et nous avons commencé avant tous ces pays, mais allez-y voir un peu autour de nous comment se porte un organe de presse, que ce soit un journal ou une radio. Et il n'y a pas un Malien qui puisse rentrer au Sénégal dans une radio, qui revienne et qui n'en est pas séduit. Ce n'est pas possible. Et pourtant, combien sommes-nous? Combien on a été en amont avant eux? Nous sommes des pionniers. Il faudrait que cet organe-là soit capable maintenant de ramener le Mali à sa bonne position d'antan, hein, de leader, de pionnier, mais de pionnier en qualité et dans une quantité respectable, mesurée en fait. On ne dit pas qu'il faut fermer systématiquement, mais ceux qui ne doivent pas exister, ne doivent pas exister, tout simplement.
Alors, je vous rappelle que nous avons le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication avec nous. Monsieur le ministre, cette nouvelle structure va remplacer le Conseil supérieur de la communication. Quelle différence majeure va-t-il y avoir entre ces deux organes?
Bon, je crois que j'en ai déjà un peu parlé, mais déjà, je voudrais rappeler l'opportunité de cette émission. Jeudi 21 août, c'est-à-dire dans trois jours, nous avons rendez-vous à l'Assemblée nationale pour défendre ce projet. Et pour que l'Assemblée nationale puisse ratifier l'ordonnance qui a créé la HAC en janvier 2014. Donc c'est un temps fort de notre démocratie. C'est une loi qui est capitale pour l'avenir de la démocratie et pour le secteur de la communication en particulier. Qu'est-ce qui va changer? Vous voyez, mes deux confrères et grands frères l'ont dit, le CSC a quelque part échoué. Nous voyons des journaux se créer tous les jours. Nous voyons des radios chaque jour se créer également, avec toutes sortes de propos qui y sont diffusés, toutes sortes d'insultes et autres diffamations, calomnies. Cela n'est pas acceptable. On voit des journaux qui publient toutes sortes de photos. J'ai vu il y a quelques jours un journal qui publiait une photo où on voyait très clairement une jeune fille probablement assassinée, qui était tout simplement éventrée avec les entrailles dehors en gros plan. Ça n'est pas normal. Ces journaux-là peuvent tomber dans les mains de n'importe quel enfant, ils sont choquants. Par conséquent, le CSC, compte tenu du fait que son rôle est uniquement consultatif, n'a pas le pouvoir de réellement réguler notre secteur. C'est pourquoi la HAC, elle, sera dotée d'un pouvoir de contrôle. Je l'ai dit, elle aura des agents qui seront là pour surveiller ce que font les organes de presse, les médias, et elle pourra sanctionner. Si vous ne respectez pas la loi, vous aurez un premier avertissement, un deuxième avertissement, et au bout d'un moment, vous pourrez vous voir retirer votre fréquence radio, vous pourrez vous voir retirer votre licence télé ou éventuellement votre possibilité de publier un journal. Voilà la réelle différence où nous aurons affaire à un gendarme. Vous disiez tout à l'heure, elle va réagir après coup. Évidemment, oui, elle n'a pas de pouvoir de censure. Nous sommes pour la liberté d'expression, la liberté de parole dans notre pays. Elle est fondamentale et nous en serons les garants. Cela dit, il nous faut un gendarme qui empêche les gens d'aller trop loin, qui fasse en sorte que les uns et les autres respectent la loi. Tout simplement, voilà la grande différence. La HAC est un gendarme, alors que le CSC est uniquement un organe consultatif.
Alors, nous avons également avec nous Aliou Dim de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. On l'a vu, la réglementation dans la création de nouvelles télés également peine à se mettre en place. Aujourd'hui, nous avons quelques télés qui émettent, malgré que ce n'est pas totalement officiel. Quelle est la grande difficulté dans ce secteur ?
Bon, disons que délibérément, il avait été procédé à une suspension de l'attribution des fréquences à des fréquences télé, parce que quand on a commencé les radios, on a vu la vitesse de prolifération. Bon, la radio, c'est quand même, il faut dire tout le bien que la radio a pu apporter à ce pays depuis le début de la démocratie, c'est vraiment salutaire. Mais la télé, c'est un peu différent. C'est un peu différent à cause du caractère un peu plus sensible, puisqu'en fait, le ministre vient de vous parler d'image. Et là, c'est encore un journal papier. Et si c'est encore la télé, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué. Vous voyez, est-ce que vous savez que le fait de lyncher aujourd'hui des gens en ville, à Bamako, ici, c'est des choses que nous avons apprises par la télé. Juste à côté de nous, ça se passait au Libéria. Et c'est de là qu'on a vu. Et qu'on s'est dit que bon, c'était une solution dans ces pays qu'on pourrait limiter ici. Alors, il faudrait, pour des télés, que les gens soient vraiment bien préparés. Préparés à savoir ce qu'ils doivent faire et à savoir comment est-ce qu'il faut faire la chose. Parce qu'il ne faut pas que ce soit comme la radio. Moi, je suis pour le fait que nous partions, contrairement aux radios, que nous partions vraiment de façon très mesurée vers la création des télés. Je suis pour ce fait-là. Encore que des dispositifs existent aujourd'hui, très clairs, pour dire que bon, quand vous avez besoin d'une télé, ce n'est pas compliqué. Vous répondez à un appel d'offres qu'on va vous lancer, tout simplement. Donc il y a des critères qui vont être fixés et auxquels vous devez répondre. Si tout va bien, eh bien, rien ne vous empêche. Mais maintenant, pour les télés qui sont en train d'ouvrir progressivement, je crois que c'est des télés qui ne sont pas dans une illégalité totale. C'est des télés qui sont
autorisées. Mais dans l'illégalité quand même.
Non, je ne dirais même pas. Ils ne sont pas dans une illégalité parce que c'est des télés qui ont bénéficié d'autorisations qui n'ont pas été invalidées à un certain temps. C'est des autorisations de 1992. Quand vous prenez le cas, par exemple, de LTV, LTV a son autorisation de 1992. Et aucun dispositif n'est venu pour
Maïcha
dire...
Il y
a Maïcha TV. Maïcha TV, c'est différent. Ça, c'est un schéma différent. Et LTV, c'est une autorisation de 1992 qui n'a pas été abrogée. Donc, qui donne droit à son détenteur, quand bien même on a dit qu'il faut un certain temps pour mettre, et quand tu ne l'as pas mis, c'est pas bon. Mais en fait, pour les radios, ça n'a pas existé, pour la télé, ça n'existera pas. Maintenant, Maïcha TV est dans une autre logique de diffusion. Maïcha TV est supposé ne pas diffuser sur le territoire malien. Et pour lui ici, pour nous, c'est comme le studio Tamani, c'est un studio de production, Maïcha TV, qui diffuse à partir d'un autre pays, c'est la France, donc qui renvoie ses images sur le Mali. C'est un peu comme Africa.
Pourtant, le studio est là.
Le studio est là, mais en fait, je crois que les textes doivent maintenant essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent gérer cet aspect. Dans tous les cas, on peut avoir la possibilité de s'asseoir dans son salon et mettre un son à Paris et puis le renvoyer à Bamako. Et tant qu'on n'est pas sur les fréquences du Mali, eh bien, il n'y a pas de problème.
La HAC aura beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec cette émission.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Ségou sur Radio Foco 100.8 MHz et la Radio Sania 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la Radio Kounari de Sévaré 105.4 MHz. Radio Djamana de Djéné 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la Radio Djamana 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz. Isaber de Niafunke, 96.3 MHz. Merci pour votre patience encore une fois renouvelée en nous. Je rappelle que nous parlons ce soir de la Haute Autorité de la Communication. Cette deuxième partie est consacrée à l'indépendance des organes audiovisuels. Un passage de l'ordonnance de la HAC dit qu'en général, l'indépendance dans le domaine public n'est autre que le respect de la loi en matière de presse et de régulation de la presse. Elle renvoie à l'absence d'interférence dans le fonctionnement et la libération de l'institution. Nous verrons si cela est soutenable pour les organes publics. que nous avons également pour en parler. Monsieur le ministre Mamadou Camara, ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Makankone, président de la Maison de la presse de Bamako. Aliou Djim, de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Alors, quelle indépendance cette nouvelle autorité confère aux organes publics et privés, monsieur le ministre ?
Alors déjà, c'est important de dire que la HAC elle-même est une autorité indépendante. Elle est indépendante pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ses membres, qui seront au nombre de 9, seront choisis par 3 institutions différentes. 3 d'entre eux seront désignés par le président de la République, 3 autres par le président de l'Assemblée nationale et les 3 derniers par nos confrères ici présents,
par la profession.
Donc le fait qu'ils proviennent d'endroits différents garantit quelque part une certaine forme d'indépendance. Deuxièmement, ils auront un mandat unique. Certains d'entre eux seront désignés pour 5 ans, d'autres pour 7 ans. Un mandat unique, donc non renouvelable. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sujets à des pressions pour un renouvellement éventuel. Troisièmement, ils ont un mandat irrévocable. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être enlevés, sauf erreur, faute lourde, évidemment. Et dernièrement, nous ferons en sorte qu'ils puissent être dotés de revenus conséquents, qui les mettent à l'abri de toute influence néfaste, je dirais. Maintenant, garantir l'indépendance des médias. Pour ce qui est des médias publics, vous me comprendrez, ils ne peuvent pas être indépendants. Autrement dit, ils ne seraient pas publics. Pour ce qui est des médias...
Est-ce qu'on peut parler de liberté de presse dans ce cas, monsieur le ministre ?
Mais évidemment. Mais on n'empêche pas les médias publics que sont l'essor, le RTM, radio et télé de travailler, c'est-à-dire de couvrir l'actualité. Simplement, il y a un angle, un traitement éditorial qui est différent lorsque vous êtes un média public, qui n'est pas celui que font nos confrères de la presse privée, des médias privés.
Mais est-ce que cela ne dénature pas l'information, monsieur le ministre ?
Non, pas du tout. Je pense que c'est un équilibre à trouver. Donner l'information, la vraie information, ensuite l'angler, l'orienter dans le sens que vous voulez. Par exemple, l'État doit défendre des grandes causes. En ce moment, la grande cause de l'État, c'est la réconciliation, la paix. Eh bien, les médias publics, dans ce cadre-là, sont des vecteurs. Ils orientent l'information dans ce sens-là pour que nos compatriotes soient sensibilisés et accompagnent l'État dans cette volonté de réconcilier les Maliens.
Alors, Makankone, concernant l'indépendance que cette nouvelle structure va conférera aux organes publics et privés, un mot là-dessus ?
Moi, je crois que, en tout cas, si on se réfère au texte qui crée la haute autorité, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Et puis, ce pays, c'est comme ça. En fait, on n'a jamais eu de problème de texte, en réalité, au Mali. C'est leur application qui pose toujours problème. Mais là, c'est qu'il y a, moi, mon souci par rapport à la HAC, c'est que cette autorité soit animée par des hommes à travers lesquels la profession se reconnaît. C'est extrêmement important. Et des hommes qui peuvent prendre des décisions incontestables, des hommes qui ne sont pas contestables. Qu'on ne peut pas contester, c'est extrêmement important cela. Ça, c'est d'abord notre devoir, nous, en tant que profession. Nous, on va désigner, contrairement aux deux autres institutions, nos représentants seront désignés à la suite d'élections. Pour vous dire que c'est vraiment une chose dont nous nous accaparons, qui est une affaire de la presse, à notre avis. C'est vrai qu'on va être 3-6, c'est vrai, mais il faut que nous nous approprions la haute autorité par rapport à cela. Maintenant, il faut qu'il y ait des hommes qui fassent appliquer les textes. Monsieur le ministre l'a dit, les textes sont là, il faut qu'ils soient appliqués. C'est-à-dire, tous les médias, pour revenir un peu aux médias publics, tous les médias, même les médias privés, hein, contrairement à ce que nous on pense ici, tous les médias ont un service public. D'ailleurs, si ce n'est pas au Mali, dans les pays anglophones et tout, médias publics, ça ne veut pas dire médias de l'État. Non, ça veut dire que nous faisons un travail public, un service public. Donc, par rapport à cela, ce que je vais dire ne va pas plaire à tout le monde. Médias privés également ne veut pas dire vilipender, s'opposer. Non, on est malien, on est malien avant d'être journaliste, on est des patriotes. Comme M. le ministre l'a dit, aujourd'hui, ce n'est pas pour nous jeter la fleur en tant que médias privés. Je crois que dans le cadre de la réconciliation et de la paix, le rôle que les médias privés jouent, je ne crois pas que les publics soient en train de le faire réellement. Nous prenons des initiatives. Donc, vous dites, ce n'est pas parce qu'on est public ou qu'on est privé que notre indépendance, elle ne doit pas empiéter sur la stabilité de l'État, la sécurité de l'État, la sûreté nationale. Non. Mais pour revenir à la HAC doit être animée simplement par des hommes à travers lesquels la profession se reconnaît, c'est extrêmement important, et des hommes qui comprennent que leur mission, c'est de faire appliquer les textes, des missions des hommes valables, compte tenu de tout ce que le ministre a dit en termes de mandat, de moyens mis à leur disposition. Ils n'ont pas le droit de décevoir. C'est ça le problème, parce que c'est possible. Hein, si on ne met pas les hommes qu'il faut, s'il y a une interférence politique, même dans la désignation de certains membres, ça peut être compliqué. Franchement,
alors parlons un peu de cette relation que les médias publics ont avec les médias privés aujourd'hui. Quels sont, ou bien quel est le degré de solidarité entre ces deux mondes?
Mais si je dois parler en tant que président de la Maison de la Presse et même en tant que journaliste tout court, moi je vois aucun problème par rapport à la collaboration entre les médias publics et privés. Le premier exemple d'abord, c'est là où nous sommes ici à Tamani. Il y en a qui sont venus du public, il y en a du privé, ça je sais. Mais là, nous, en tant que Maison de la Presse, je vous ai dit, l'ORTM siège à la Maison de la Presse, la MAP siège à la Maison de la Presse. Et puis bon, dans la rue, on est des copains, on est des grands frères, des petits frères. Moi, j'ai aucun complexe par rapport à un journaliste du public qui a fait les meilleures écoles du monde et tout, non. J'ai fait mon travail, le travail pour lequel je suis là, je le fais bien. Et puis je ne mets pas en avant, je vous ai dit, médias privés, ça c'est vraiment moi mon leitmotiv. C'est pas parce que je suis journaliste privé que je dois m'opposer à tout ce que le public fait. Non, ça moi je marche comme cela et je me dis donc qu'il ne doit pas avoir d'aucun complexe ni d'un côté ni de l'autre. En fait, c'est les journalistes même qui créent ça et ce n'est pas en réalité des trucs à encourager. On est des journalistes, un point, c'est tout, public, privé. On est tous publics, je vous ai dit. Moi, les médias, c'est des services publics, donc on est public, c'est tout.
Alors, Aliou Dim, vous êtes de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Aujourd'hui, est-ce que les critères de choix des hommes qui vont animer cette nouvelle structure vous convient?
Bien, et avant de répondre à ça, je tiens un peu à revenir sur la question à laquelle Macan et le ministre ont répondu pour vous dire qu'il faut relativiser la notion d'indépendance et de liberté par rapport à la presse. Le ministre a parlé tantôt d'angle de traitement, il a parlé de ligne éditoriale, c'est vrai. Quand vous dépendez de quelqu'un, quelqu'un met son argent dans sa structure, naturellement, tu ne feras que ce qu'il veut. Même dans la presse privée, cette liberté n'est pas totale.
Est-ce que cela est conforme avec l'éthique journalistique?
Oui, bien entendu. Et c'est même légal. Quand tu ne t'entends pas avec la ligne éditoriale d'un organe de presse, tu quittes. Tu vas là où tu peux t'exprimer. Il y a beaucoup d'organes de presse pour ça, justement. Quelqu'un est là. Autant l'État veut que les choses soient traitées sous son angle de traitement, autant l'État impose sa ligne éditoriale, autant chaque promoteur d'organes de presse impose sa ligne éditoriale et sa philosophie à son organe. Si ça ne te convient pas, tu t'en vas. C'est tout simple. Et ça, c'est même légal.
Donc, et c'est vrai dans tous les pays du monde.
Et c'est vrai dans tous les pays du monde.
Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites.
Mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire.
Allez-y.
Bien. Donc maintenant, le choix... Bon, en fait, ce qui est important par rapport au choix des hommes qui vont animer ça, moi, je pense que tout le succès de la haute autorité dépend des premiers hommes qui vont l'animer. De leur professionnalisme, de leur probité morale, de toutes les qualités dont on a besoin aujourd'hui pour faire en sorte qu'au Mali puisse exister finalement une première institution qui va gérer l'environnement médiatique. Et pour cela, très honnêtement, il n'y a pas il n'y a pas à se casser la face. La vérité est qu'il faudrait que nous sachions choisir les hommes qui seront capables de le faire. Nous savons parmi nous qu'il y a des gens qui peuvent, de par leur influence, exister au sein de cette structure. De toute façon, c'est une compétition. Mais nous savons aussi que lorsqu'ils seront là, ils ne seront capables de rien qui puisse obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit pour le bien de la presse malienne. Par contre, nous savons d'autres, dans leur humilité, dont on sait que, bien entendu, les qualités qu'ils ont développées tout le long de leur parcours leur permettent de prendre certaines dispositions, de dire « ça, ce n'est pas bon » et que les gens acceptent et les suivent. Je crois que tout le problème est à ce niveau. Si nous parvenons à faire une sélection positive d'hommes capables d'animer réellement à hauteur de souhait ce que nous voulons créer comme institution, on va rattraper tout le retard que nous avons perdu. Mais si nous ratons ce départ-là, eh bien, ça va être une chambre comme des autres. eh bien, ça va exister, mais ça ne fera absolument rien.
Alors, Monsieur le ministre, souvent le choix des hommes fait que la chose marche ou échoue. Aujourd'hui, est-ce que les critères que vous avez définis pour choisir les hommes afin d'animer cette nouvelle structure, est-ce que ces choix reposent sur une large concertation ?
Bon, vous savez, il y a plusieurs, dans de nombreux pays en Afrique et dans le monde, il y a ce type d'organes de régulation. Et il est rare de trouver dans ces organes des modes de désignation aussi larges que ceux que nous avons choisis ici au Mali. La plupart du temps, l'ensemble des membres sont choisis par l'exécutif. Dans le cas malien, l'exécutif, à travers le président de la République, en choisira 3. Le législatif, à travers le président de l'Assemblée nationale, 3 également. Et les professionnels, 3 également. Donc ça garantit quand même une certaine diversité de parcours, de profils, sachant qu'il faudra des gens du secteur de la presse écrite, du secteur de l'audiovisuel, peut-être des juristes aussi, puisqu'il s'agit de voir si les choses sont en conformité avec la loi, et aussi d'autres gens qui viennent du monde de la communication, qui travaillent dans des agences. Donc il y a des critères qui sont propres à ceux qui vont choisir. On a entendu parler de probité morale, on a entendu parler de professionnalisme, et il y a aussi effectivement cette capacité à comprendre l'évolution du monde du secteur de la communication. Tout ça sont des critères qui, j'espère, seront pris en compte au moment des choix qui seront faits. Mais je voudrais revenir sur un point évoqué par Makankone. Il a parlé de « nous serons 3 face aux 6 autres ». Moi, je ne dirais pas que c'est un face-à-face, parce qu'il y aura 9 membres qui vont se réunir, élire un président parmi eux, et ils vont former une équipe. Donc ce n'est pas un face-à-face. D'autant plus que parmi les choix de l'exécutif et du législatif, il y aura peut-être aussi des journalistes, des professionnels de la communication.
Oui, mais est-ce que c'est peut-être parce que je crois avoir compris que à ce niveau aussi, on a souhaité que les choix portent sur quand même des professionnels. On a souhaité.
Alors c'est mieux qu'il y ait des professionnels de la presse, du monde, de l'univers de la communication. Mm-hmm. Mais on souhaite aussi qu'il y ait des juristes.
Il ne faudrait pas que l'exécutif qu'ils aillent chercher des médecins pour venir les mettre.
Non, bien sûr.
Non, mais enfin,
bien sûr. Je pense qu'on peut leur faire confiance sur ça. La seule chose que moi je souhaite, en plus des critères qui sont dans la loi, c'est qu'il y ait parmi ces choix des femmes. Parce que, vous le savez, elles représentent la majorité de nos populations. Elles ont une sensibilité que nous, hommes, n'avons pas. D'ailleurs, c'est dommage, vous n'en avez pas invité aujourd'hui.
C'est pas faute d'avoir essayé. Hein.
Ah, donc, les femmes qui nous écoutent. Voilà, donc j'espère que parmi les choix des 3 organes qu'ils vont choisir, il y aura au moins une femme à chaque fois.
Alors, Monsieur le ministre, on évoque également le texte une veille éditoriale. Qu'est-ce qu'une veille éditoriale dans ce contexte ?
Une veille éditoriale, c'est tout simplement, pour ce qui est de la radio, d'écouter les radios, pour ce qui est des journaux, de les lire, de les consulter, et leur pendant Internet également, et pour les télés, de regarder, simplement surveiller. Dans surveiller, il y a veille. Il s'agit de regarder et de vérifier que ce qui est diffusé soit en conformité avec la loi, que l'on n'atteigne pas à l'honneur, à l'intégrité, à la dignité des hommes, quels qu'ils soient. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'un organe pour le pouvoir afin d'éviter de se faire critiquer. Au contraire, la liberté d'expression et la liberté de parole est un droit fondamental. Simplement, vous pouvez critiquer n'importe qui, quel qu'il soit, pardon, mais dans le respect de sa personne.
Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la 3e et dernière partie de cette émission.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Un clin d'œil à deux fidèles auditeurs de cette émission, Madi Boyba et Ramata Dia, qui nous écoutent grâce à la radio Guintan de Manyambougou Reda, la voix des femmes. Ceci dit, le débat d'aujourd'hui parle de la Haute Autorité de la Communication. La Haute Autorité de la Communication, créée en lieu et place du Conseil supérieur de la Communication, est au terme de l'ordonnance en anti de tous les pouvoirs de régulation de l'ensemble des médias publics et privés, excepté le seul domaine de l'accès aux médias d'État, aux médias publics, qui relèvent toujours du Comité national de l'égal accès aux médias d'État. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons Monsieur le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Également avec nous, Makan Kone, président de la Maison de la Presse, Aliou Djim, de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Alors, avec la HAC, quelle avancée pour la liberté d'expression? Ce comité est un organe constitutionnel qui ne relève de, ni de la superstructure, ni du service des services centraux de l'État. Il a coexisté avec le Conseil supérieur de la communication depuis plus de 20 ans. Même si l'objet de la création de la HAC est le renforcement de ses pouvoirs, ceci n'affecte pas le comité. Ce dernier continuera à assumer sa mission aussi longtemps que durera la Constitution dans sa version actuelle. Pourquoi ne pas fondre tout cela en un même organe, Monsieur le ministre ?
Mais vous avez vous-même apporté la réponse. Le comité d'égal accès aux médias d'État a un fondement constitutionnel. Donc vous savez, il n'y a pas de réforme constitutionnelle à l'ordre du jour. Par conséquent, on ne peut pas fondre cet organe-là. Donc ils vont vivre en parallèle et le moment où il y aura une réforme constitutionnelle, j'espère que l'on intégrera dans cette réforme le fait que le comité d'égal accès aux médias d'État intègre la HAC pour que la HAC puisse superviser l'ensemble des missions. Sachant qu'aujourd'hui, le comité d'égal accès aux médias d'État a une fonction bien précise. Il s'agit de garantir le pluralisme sur les médias d'État. Cela fonctionne avant tout, essentiellement, au moment des campagnes électorales. Vous avez constaté dernièrement, les uns et les autres se relayaient sur la chaîne publique au RTM, à la radio, dans l'Essor, pour diffuser leurs messages. Ils avaient les uns et les autres droit au même temps de parole ou au même espace dans le journal L'Essor, quel qu'il soit. Quel que soit votre poids politique, quel que soit votre parti, les uns et les autres avaient le même accès aux médias d'État. Donc voilà le rôle du comité. Et demain, je l'espère, s'il y a une réforme constitutionnelle, que la HAC reprendra cette fonction-là.
Alors, Monsieur le ministre, nous parlons dans cette partie de la liberté de presse. Est-ce que le Mali parviendra à prendre l'exemple sur certains pays comme la France, même si nous sommes loin de ce pays? On se rappelle, le dernier hic de la présidence, c'était les affaires de cœur du président Hollande. Mais cette question a été posée lors d'un point de presse, d'une conférence de presse par la presse présidentielle. Cette question sur son intimité a été posée par la presse présidentielle.
Au Mali?
Parviendra-t-on, non, en France, mm-hmm. parviendra-t-on un jour à passer ce cap au Mali?
Bon, écoutez, vous dites, est-ce qu'on ne devrait pas prendre exemple sur d'autres pays? Figurez-vous que beaucoup de pays prennent exemple sur le Mali, qui en termes de liberté de presse et liberté d'expression est à l'avant-garde, notamment en Afrique. En dehors de ce qui s'est passé pendant la période du coup d'État, reconnaissez que notre pays, à ce niveau-là, se passe plutôt bien. Moi, je pense qu'il faut avant tout regarder le fond culturel et les traditions d'un pays. Dans notre pays, on ne se permet pas de parler de toutes les choses à toutes les personnalités. C'est ça qu'il faut regarder. Les lois, les réglementations s'adaptent à la culture, aux traditions qui s'y est dans le pays. Ce n'est pas l'inverse. On ne doit pas aller chercher ce qui se passe à l'intérieur pour venir le faire chez nous, sous prétexte que des pays plus avancés que nous le font. Voilà, donc ce qui s'est fait lors de la conférence de presse que vous évoquez, moi, personnellement, je ne souhaite pas que ça se fasse au Mali. Parce que je considère qu'il y a une sphère publique et il y a une sphère privée. Et ce qui est de la sphère privée ne doit pas être exposé dans une conférence de presse publique.
Alors, la liberté de presse, de façon générale, Makan Kone, où est-ce que nous en sommes 20 ans après?
Je voulais juste parler du Mali et de la France, comme vous l'avez évoqué récemment. En fait, nous, en réalité, nous étions le coup d'État, on n'a pas besoin de prendre l'exemple sur la France. Moi, je me souviens du dernier classement des Reporters sans frontières, avant le malheureux coup d'État qui s'est passé chez nous. On était je crois, sur 10 ou 15 points en avance sur la France. On était dans le 33e, je crois. La France était 55e, un truc comme cela. Donc, par rapport à ça, c'est aujourd'hui... Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sortons petit à petit de la tête de l'eau. Il faut reconnaître que c'est le coup d'État qui nous a vraiment fait plonger en termes de liberté de presse. Sinon, on était fiers, nous, quand on voyageait lors des 3 mai, la journée de la liberté de la presse, on était fiers. de proclamer, de clamer le rang que nous occupions à l'époque. Maintenant, on espère qu'on va sortir de tout ça et qu'on va commencer petit à petit à regagner notre place normale en termes de liberté de la presse. Je dis souvent, je vais encore peut-être heurter déjà, moi je dis souvent qu'il y a un peu plus de liberté de la presse dans notre pays, honnêtement. C'est-à-dire que la presse, elle est à la limite un peu trop libre au Mali. Ça il faut avoir le courage de le dire, c'est la vérité. Quand un étudiant dispose à la possibilité d'avoir un journal, de posséder un journal dans un pays, je crois que c'est trop de liberté, écrire, faire ce qu'il veut. Donc c'est par rapport à ça que j'interpelle l'État, monsieur le ministre, en face de moi. C'est pas possible, ça c'est des choses qu'il faut arrêter désormais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas délivrer un récépissé de journal à n'importe qui. C'est très très dangereux. On ne peut pas permettre à n'importe qui de parler dans un micro. Ce n'est pas normal. Tout le monde, n'importe qui ne peut pas être journaliste, n'importe qui ne peut pas disposer d'une carte de presse. Dans ce pays, ça existe. Donc moi je ne vois pas la liberté de la presse au Mali en termes de chute. Je vois la liberté de la presse en termes de disposition que l'État doit faire, même pour mettre des garde-fous par rapport à cette liberté de la presse. C'est aussi ça qui peut nous rendre fiers, nous, de dire dans la rue, à l'extérieur, qu'on est journaliste au Mali. Mais quand un étranger vient et qu'il voit que il regarde les journaux, il écoute nos radios, franchement, on commence à être de moins en moins fiers de se réclamer de cette profession. C'est par rapport à cela que l'État est interpellé, que la haute autorité est interpellée, que nous, tous journalistes, nous sommes interpellés.
Alors, il y a certains épisodes qui se sont passés durant la transition que dirigeait le professeur Diokunda Traoré. Professeur Diokunda Traoré qui a été très critique à la fin de son mandat vis-à-vis de la presse. Aliou Dim, vous êtes de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. A-t-on déjà oublié ou bien cet épisode de Boukari Ndaou est désormais enterré ?
Non, on ne l'oubliera pas de sitôt, justement, parce que ces faits sont là et on les entretient d'ailleurs assez longtemps pour que les gens comprennent tout le fait que ça va produire sur la bonne pratique de notre profession. Il faut que les gens comprennent, j'allais suivre Magan, que la liberté de la presse ne se mesure pas au coup de bâton qu'on donne aux journalistes. Ça ne se mesure pas aux journalistes enfermés ou ceci ou cela. Non, ça n'a rien absolument. Bon, ça a quelque chose à voir. Mais ce n'est pas seulement que ça.
C'est un critère parmi d'autres.
Ce sont des critères. Je crois qu'il l'a dit, nous sommes... Et est-ce que vous savez, par exemple, que la revue de la presse, ce qu'on appelle vulgairement la revue de la presse, qui est en réalité le commentaire des articles de presse, que ça a été créé au Mali. C'est des Maliens qui ont créé ce genre radiophonique. C'est des Maliens. Ça n'avait existé nulle part au monde. C'est une initiative purement malienne qui a été exportée et qu'on retrouve dans tous les pays de la sous-région. Mais...
À mieux.
Pas à mieux, certainement. Pas à mieux. Mais pas à mieux. Non, pas à mieux. Ce que j'allais dire, c'est que la liberté que nos animateurs se donnent d'animer cette émission-là, eh bien, c'est extraordinaire.
C'est ce que je voulais dire.
Bon, en fait, ce n'est pas que ce soit pire, alors. De toute façon, je me dis qu'ils se donnent de la liberté, mais...
Alors, que fera la HAC
dans
ce genre de...
Non, oui, c'est ça, justement, ce que vous avez appelé veille éditoriale tantôt. C'est qu'aujourd'hui, la création de la HAC s'accompagne de la mise en place d'un certain nombre de dispositions contenues dans les cahiers de charges. Ils font obligation aux organes de presse justement, de respecter un certain nombre de choses. Et c'est le respect de ces choses-là qui constitue en réalité, justement, les éditos que nous allons avoir. Parce qu'on ne fera plus la radio comme on entend, mais on fera la radio comme on doit la faire.
Okay. Alors, entre la haute autorité de la communication et la nouvelle école de journalisme qui doit ouvrir ses portes, monsieur le ministre, laquelle de ces deux structures ouvrira ou bien sera opérationnelle en premier ?
Alors déjà, elles n'ont rien à voir. Hein. La HAC est un régulateur.
Donc comme c'est tout une projet du...
C'était un projet. Mais justement, vous voyez, j'ai une petite fiche là. Je peux vous dérouler tous les projets qu'on a. La HAC est un organe de régulation qui va s'appuyer sur une base légale. Alors parmi les instruments, la base légale, il y a notamment la loi sur la presse, qui est en cours de relecture et que nous souhaitons voir aboutir dans le courant du dernier trimestre 2014. Pour aller dans le sens de ce que disent mes confrères, on puisse professionnaliser le journalisme au Mali. Il n'est pas juste, il n'est pas normal, comme l'a dit Macan, que n'importe qui puisse se lever demain et dire « je suis journaliste, je fais un journal, j'anime sur une radio ». Non. demain, ce sera plus possible. Il y aura des critères d'accession à la profession de journaliste. On dira, par exemple, il faut avoir un certain niveau, avoir exercé tant d'années pour être directeur de publication ou avoir un diplôme de tel niveau, etc., etc. Donc la loi sur la presse, qui pour le moment est en discussion, parce qu'il y a un point de difficulté qui est la question de la dépénalisation des délits de presse. Donc ça, on pourra en parler. Personnellement, j'y suis favorable à la dépénalisation, mais il y a tout un travail de pédagogie, d'explication, pour que l'on puisse y aboutir de manière consensuelle. Il y a également la loi sur la publicité. Il n'est pas normal que certaines publicités véhiculent tout simplement des mensonges. Donc cette loi va permettre d'instituer un cadre réglementaire et la HAC ensuite pourra contrôler, sanctionner le cas échéant. Et enfin, vous avez parlé de l'école de journalisme. Ça, c'est un beau projet que j'espère voir aboutir lors de la prochaine rentrée. Nous aurons une première promotion assez réduite avec des étudiants choisis après le bac sur concours et qui va permettre de former une nouvelle génération de journalistes maliens avec le concours, j'espère, des anciens que j'ai ici avec moi et qui vont pouvoir venir dispenser des cours parce que demain, il faut que, comme ça a été dit, le Mali soit un exemple pour ses médias mais aussi et surtout pour ses journalistes.
Alors, Monsieur le Ministre, nous n'allons pas vous laisser partir sans pour autant nous dire quelques mots, toujours sur l'indépendance de cette presse privée. Quelle pourra être l'émergence de cette presse privée après, avec cette nouvelle formule que vous vendez? Quelles seront les facilités d'autonomisation de la presse privée en termes économiques?
Alors, c'est une très bonne question. Dans la loi sur la presse, nous allons faire en sorte de favoriser l'émergence de groupes privés de presse qui peuvent être constitués de journaux, de radios, de télé. Bref, des groupes qui vont devenir puissants, qui vont générer des revenus, qui vont pouvoir employer des journalistes et les déclarer à l'INPS, j'espère, et donc créer des emplois et contribuer à faire tourner l'économie nationale. Pour cela, il y a un lien à faire avec la loi sur la publicité. Donc il faudra qu'on favorise le fait que ces médias puissent avoir accès la publicité d'État qui va les appuyer, etc., etc. Il faut qu'on arrive à créer un véritable secteur économique, le secteur des médias et l'audiovisuel, qui doit être mis en lien avec le secteur de la culture, parce que c'est un pan de notre économie qui, demain, peut générer des emplois.
Alors, est-ce que l'aide à la presse va être revue?
Il faut qu'elle soit revue, absolument.
Cette année?
On peut pas, dès cette année, je l'espère, on peut pas saupoudrer, disperser des centaines de millions de francs chaque année sans qu'il n'y ait au bout des résultats. Il n'est pas normal que l'aide à la presse serve aux besoins propres des directeurs de publication ou des propriétaires de journaux. Moi, je souhaite qu'elle profite avant tout aux journalistes pour les aider à se former, pour les équiper, etc., etc. Donc c'est toutes ces conditions-là, ces critères qui seront intégrés dans la loi sur la presse.
Alors, nous ne le disons pas assez.
Il voulait parler plutôt de revoir l'aide à la presse à la hausse.
À la hausse. Cette année?
Je pense que les conditions budgétaires sont assez délicates cette année, mais en tout cas, c'est un objectif à terme.
Alors, on n'en parle pas assez, Monsieur le Ministre. La presse en ligne, deux mots sur cette nouvelle formule.
C'est une presse qui se développe. Il y a des sites internet qui reprennent, qui font des revues de presse en quelque sorte, qui reprennent les journaux. Et il y a des sites qui sont eux-mêmes des journaux, qui publient des articles, qui ont des rédactions, etc., etc. Donc, tout sera intégré dans la loi sur la presse, et la HAC aura contrôle également sur Internet.
Alors, c'est notre cas. Aujourd'hui, le studio Tamani aura un an demain. Un an, c'est votre premier anniversaire. C'est votre deuxième.
Moi, c'est aujourd'hui mon anniversaire.
Ah, donc on n'est pas loin. Alors, c'est votre deuxième passage ici au studio Tamani. Vous venez de l'entendre. Ça fait un an que nous existons pour la paix, la réconciliation. Un mot pour les travailleurs de Tamani et pour les médias, enfin, pour la réconciliation de façon générale.
Bien sûr, je voudrais déjà vous féliciter parce que vous êtes là depuis seulement une année et je trouve que vous faites un travail formidable. Je trouve qu'on a, nous tous, beaucoup à s'inspirer de ce qui a été fait en l'espace d'une année. Vous avez recruté des journalistes, vous les avez formés, ça c'est très important. Vous avez réussi à fédérer un réseau de radios sur l'ensemble du territoire, de correspondants. Et vous créez de l'emploi. Voilà, donc c'est un modèle qui doit être suivi par d'autres acteurs nationaux, je l'espère. Et je vous souhaite tout simplement bon vent et bonne continuation.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci aux deux de vous inviter, Makankone et Aloudjim. Merci infiniment pour votre patience et votre fidélité. Madame, Monsieur, sachez tout simplement qu'aujourd'hui, nous parlions de la Haute Autorité de la Communication. Le texte de la création de cette nouvelle structure sera présenté aux députés de l'Assemblée nationale cette semaine. Et le ministre Mamadou Camara, ministre de l'Économie numérique, de l'Information et de la Communication, nous a fait le plaisir d'être là pour en parler. Merci, Monsieur le Ministre, encore une fois. Également avec vous dans ce studio, Makankone, président de la Maison de la Presse de Bamako, Aloudjim de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Merci beaucoup, messieurs. Trois volets ont été analysés dans cette émission. Quel est le rôle de cette nouvelle autorité? Quelle indépendance dans cette autorité, pour cette nouvelle autorité par rapport aux organes publics et privés avec la HAC? Quelle avancée pour la liberté d'expression? Alors, on me fait signe qu'il est 19h. Je suis Famoussa Sidibé et Nouhoum Diré était à la technique. Ousmane Diadjé Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.